Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Pour la présidentielle, on donne une nouvelle fois la parole à des associations. Cette semaine, on s'intéresse à l'accueil des migrants en France. La CIMAD 01 et le collectif Jeunes Migrants de l'Ain sont nos invités.
Et reportage pendant le concours Les Petits Champions de la Lecture. Des élèves de CM2 du département ont montré leur talent de conteur.
Et l'actu en bref, c'est tout de suite.
Bourque, en bref.
Et les résultats de la présidentielle dans le département.
Dans l'Ain, c'est Emmanuel Macron qui est en tête avec 27,7% des suffrages exprimés. C'est à peu près son score au national. En deuxième position, on trouve Marine Le Pen avec 26%. C'est 3 points de plus qu'au national. En troisième position vient Jean-Luc Mélenchon avec 17,4% des voix et presque 5 points de moins qu'au national. On retrouve ensuite avec moins de 10% et dans l'ordre décroissant Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Philippe Poutou et enfin Nathalie Arthaud. Environ 100 000 Indinoises et Indinois ne se sont pas déplacés pour voter ce dimanche et ça représente une personne sur cinq. L'abstention dans l'Ain est plus élevée qu'en 2017 et c'est aussi le cas à l'échelle nationale. Et nous analyserons cette abstention dans une émission spéciale après le second tour, le lundi 25 avril à 18h sur le 90FM.
Et nous allons faire le tour des résultats dans quelques villes du département.
À Bourg-en-Bresse, Emmanuel Macron est en tête avec 28% des suffrages exprimés, suivi par Jean-Luc Mélenchon avec 25,6%. À Oyonnax, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 28,6%, suivi par Emmanuel Macron avec 22,6%. À Valserone, c'est aussi le candidat de la France Insoumise qui est en tête avec plus de 27%, suivi par Marine Le Pen avec 23,6%. La candidate du Rassemblement National arrive en tête à Ambérieu-en-Bugey avec 25% et elle est suivie par Jean-Luc Mélenchon avec 24,5%. Emmanuel Macron est en tête à Belley avec 25%, suivi par Marine Le Pen avec 23,9%. Et du côté du pays de Gex, à Saint-Genis-de-Pouilly et à Gex, Emmanuel Macron fait plus de 30% et il est suivi par Jean-Luc Mélenchon avec plus de 20%. Globalement, c'est le Rassemblement national qui remporte la première place dans la majorité des communes du département, mais Emmanuel Macron fait le meilleur score. Le vote d'extrême droite concerne surtout les petites communes, les plus rurales, tandis que les plus urbanisées ont voté surtout pour Emmanuel Macron ou même pour Jean-Luc Mélenchon, notamment dans la Plastique Vallée.
Et retour sur la marche pour le climat de ce week-end.
Et c'était le 9 avril, au départ de la tannerie à Bourg-en-Bresse. Ils étaient environ 300 pour cette manifestation pour défendre le climat et la justice sociale à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Ce rassemblement a été suivi dans environ 70 villes en France. Un appel à agir à destination des politiques.
Mobilisation pour une famille menacée d'expulsion.
Et le père d'un enfant scolarisé en classe de CP à l'école des Vennes à Bourg-en-Bresse est depuis quelques jours placé en centre de rétention administrative. La famille albanaise est installée à Bourg depuis plusieurs années. Et les parents d'élèves se sont mobilisés pour faire pression pour que le père de famille reste en France. Ils appellent au rassemblement à 8h30 ce mardi 12 avril devant l'école des Vennes.
Nouveau rendez-vous de l'emploi cette semaine.
Les conseillers des points info emploi de Grand Bourg Agglomération vous attendent ce mardi 12 avril à la salle des fêtes de Morvel-en-Bresse. Ils proposent des formations et des offres d'emploi. C'est sans rendez-vous de 9h à midi et n'oubliez pas votre CV.
La saison estivale à Bouvant approche. Burgiennes et Burgiens, demandez votre carte.
Dès le samedi 14 mai, l'entrée sera payante à Bouvant, sauf pour les Burgiens avec une carte. Alors pour la demander, ça se passe directement au parc de loisirs, au service action sportive, à la maison des quartiers des Vennes ou en ligne sur bourg-en-bresse.fr. Il vous faut pour chaque personne qui demande une carte sa pièce d'identité ou un livret de famille, un justificatif de domicile et une photo. La carte est gratuite et il y a 3€ à payer pour les frais de dossier.
Radio B, Radio B.
Pâques, plusieurs chasses aux œufs sont organisées et ça commence dès ce mercredi.
Au domaine de la garde à Bourg-en-Bresse, un stand de maquillage, des jeux en bois, une petite restauration sont aussi prévus. C'est à l'initiative du Secours Populaire au profit des enfants. C'est de 13h30 à 17h30 ce mercredi 13 avril.
À Saint-Denis-les-Bourgs, pas de chocolat, mais des livres.
La médiathèque L'Odyssée vous propose aussi ce mercredi 13 avril une chasse aux livres de Pâques. En famille, suivez les indices, répondez aux énigmes pour retrouver ces livres. C'est de 10h à 11h30 et c'est gratuit. Inscription auprès du pôle pyramide.
Et au monastère royal de Broue, chasse ouverte pendant 3 jours.
Les 16, 17 et 18 avril, vous pouvez venir en famille pour un parcours ludique. Il dure environ 1 heure et permet de trouver des œufs en chocolat de la chocolaterie Monet. Le domaine des saveurs des Planons accueillera aussi les petits et les grands ce dimanche 17 et le lundi 18 avril. Et du côté du Revermont, ça se passera au musée du Val-Revermont le 18 avril dès 10h.
Le centre de loisirs des jeunes fête le printemps et propose des activités aux ados pendant les vacances.
C'est du 19 au 29 avril. Il faut être né entre 2005 et 2011 pour en profiter. Les jeunes pourront faire une sortie à Aix-les-Bains le 19 avril pour faire du skateboard et de la randonnée. Plusieurs autres activités en extérieur sont aussi au programme. Et c'est 10 euros les 2 jours, organisés par la ville de Bourg-en-Bresse. Plus de renseignements auprès de la mairie.
Des monstres dans les rues de Bourg.
Alors vous les avez peut-être aperçus mercredi dernier au marché de Bourg-en-Bresse. Des monstres se sont baladés tranquillement en ville. C'est une performance de la compagnie de théâtre lyonnaise Les Transformateurs, en partenariat avec la MJC, le centre psychothérapique de l'Ain, et le centre social Terre en couleur. Plusieurs événements sont organisés jusqu'au 7 mai, le jour du grand défilé de monstres à Bourg. On écoute Nicolas Ramon, le metteur en scène du spectacle Festum.
Alors Festum, c'est un spectacle de rue, c'est un spectacle qui se joue dans l'espace public et c'est une invitation à déambuler dans la rue. On invite le public à déambuler d'un point A à un point B et cette déambulation est accompagnée par des monstres, des personnages monstrueux qui petit à petit, tout au long de la déambulation, vont nous inviter à rentrer dans leur intimité. C'est-à-dire que un monstre va se mettre sur un petit monticule, sur une petite scène, il va quitter sa tête, dessous il a une tête de monstre aussi, et il va raconter son histoire. Et en fait, on se rend compte, au bout d'un moment, toutes les histoires les unes au bout des autres, qu'en fait, ces gens-là, ces monstres, en fait, ils ne sont pas si éloignés de nous, en fait. C'est un peu nous, voilà, parce qu'on a tous un petit monstre en nous.
Donc pourquoi avoir choisi les monstres? Qu'est-ce qui se cache derrière ces histoires?
Moi, ce que je voulais raconter avec ce spectacle, pour moi, ce qu'il raconte, c'est notre rapport à la norme et à l'étrangeté et à la différence. C'est-à-dire, on voit bien que quand nos sociétés sont en difficulté, on a tendance à chercher un bouc émissaire. C'est-à-dire, c'est la faute de l'autre. C'est pas comment on se remet pas en question, comment on se questionne pas sur notre... Et je pense qu'on devrait souvent se questionner sur... D'abord, se questionner sur nous.
Donc à côté de vous, il y a une tête de monstre. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, nous la présenter et nous raconter son histoire?
Alors là, le monstre qui est à côté de moi, la tête, c'est la tête de Moa. Un monstre qui s'appelle Moa, pour ne pas dire moi, moi, moi. Et c'est un monstre, en fait, son histoire, c'est que c'est une petite fille qui était une enfant battue. Et un jour, pour sauver sa peau, ben, elle est partie. Et elle a quitté sa famille, elle a quitté ses proches. Et elle a fui pour ne pas se faire massacrer. Et dans sa fuite, elle a tout laissé. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée face à la forêt, face à une grande forêt. Et la forêt, c'est le lieu de tous les possibles, dans tous les imaginaires. Et donc, elle rentre dans la forêt, et dans la forêt, elle va rencontrer d'autres monstres. Et ils vont faire société, ils vont faire groupe. Et ce groupe de monstres vit au fond de la forêt. Alors je ne sais pas si autour de Bourg-en-Bresse il y a des forêts, mais on pourrait imaginer que dans ces forêts, bah, il y a peut-être des monstres qui ne sont pas si méchants que ça au fond, et qui de temps en temps viennent nous voir, nous les gens qui vivons à Bourg, pour nous rendre visite.
Donc si vous deviez résumer l'objectif donc, de cette création, de ce spectacle.
Ce spectacle c'est un peu la fête, mais ce n'est pas une fête gratuite, c'est-à-dire il y a une dimension. Qui est un désir d'ouverture à l'autre, un désir de partager un moment avec les autres. que ce soit le public qui va marcher, qui va suivre les monstres. Donc les gens entre eux, ils vont marcher, ils vont discuter entre eux. À un moment donné, on va les inviter à danser, à faire les fous. Et puis, on va leur raconter des histoires. Et ces histoires, ben, elles peuvent éventuellement résonner avec leur propre histoire. Parce qu'on a tous une histoire, on a tous des blessures, des choses qu'on a vécues qui font qu'on est ce qu'on est.
Et le spectacle se veut participatif. 9 personnes vont pouvoir prendre le costume de claque-bec, des monstres qui claquent du bec, inspirés d'un voyage en Sardaigne. Le premier atelier a lieu le 3 mai. Tout le monde peut devenir un claque-bec. Et vous pouvez aussi être pris en photo avec les têtes de monstres du 11 au 14 avril et en faire des créations artistiques. Elles seront exposées dans plusieurs lieux de la ville par la suite. Vous pouvez contacter la MJC de Bourg-en-Bresse pour participer.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français.
Parce que c'est notre projet !
Les assos parlent aux candidats. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'était ce week-end. Le second sera le 24 avril prochain. Pour refermer notre chronique spéciale « Les assos parlent aux candidats », nous donnons la parole à la CIMAD 01 et au collectif Jeunes Migrants de l'Ain. Et on écoute tout de suite la CIMAD 01.
Alors la CIMAD, c'est une vieille dame de 80 ans passée maintenant, puisqu'elle est née en 1940, à une période où donc les problématiques de migrants existaient déjà sur notre territoire, en France, avec notamment les réfugiés espagnols, suivi par tous ceux qui étaient pourchassés par Hitler, je ne vous fais pas le dessin. Ça s'est créé à ce moment-là pour accompagner les personnes qui étaient en difficulté avec toutes les autorités administratives. Cette association a pris une envergure nationale, c'est une grosse structure maintenant avec son siège à Paris. Des antennes régionales où on retrouve des personnels professionnels salariés. Et donc des groupes de bénévoles, et donc c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, en tant que bénévole du groupe local de la CIMAD de Bourg-en-Bresse. Donc nous ne sommes que des bénévoles, donc en lien avec notre antenne régionale de Lyon, qui nous apporte le soutien juridique essentiellement, puisque les problématiques de migrants que nous accompagnons sont essentiellement des problématiques juridiques, ou d'ordre administratif tout au moins. Notre mission n'est pas de faire à la place des gens, on y tient. On les accompagne dans leur démarche, mais leur démarche reste leur démarche à eux de les faire. C'est-à-dire que, par exemple, nous ne les accompagnons pas quand ils ont un rendez-vous en préfecture, nous ne les accompagnons pas au tribunal administratif, parce que ça, c'est la mission d'un avocat. Voilà pour situer donc cette mission de bénévole qui est d'accompagner les personnes que nous recevons donc dans des permanences.
Et donc dans cet accompagnement, c'est surtout pour les demandes d'asile, qu'est-ce qu'ils demandent ?
Alors, tout ce qui est régularisation de leur situation administrative, la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent chez nous après avoir essuyé un refus de titre de séjour de la part de la préfecture, assez souvent assorti d'une obligation de quitter le territoire français, on appelle ça une OQTF, et quelquefois aussi avec une interdiction de revenir sur le territoire français, ce qu'on appelle dans notre jargon l'IRTF. Souvent, très souvent même, les migrants ont du mal à imaginer de la complexité administrative. Encore que souvent, c'est assez surprenant de voir comment ils arrivent à se débrouiller, et notamment avec Internet.
Et donc dans l'Ain, est-ce qu'on a une problématique particulière au niveau des migrations ? Est-ce qu'on a plutôt des personnes de tel ou tel pays ? Comment ça se passe pour l'Ain ?
Pour l'Ain, nous avons un peu tous horizons, hein, de l'Afrique, des pays du Moyen-Orient, de l'Afghanistan, du Maghreb, d'Irak, voilà, en gros, et puis d'Afrique noire aussi. On a aussi l'occasion de voir pas mal d'Africains de différents pays, sur lesquels je ne m'étendrai pas plus, sur la situation d'insécurité locale, l'absence d'État qui font que ces migrants se retrouvent sur les routes parce qu'ils sont dans des pays où ils se sont retrouvés confrontés à des violences, confrontés à une perte d'avenir pour leur évolution, et notamment chez les jeunes.
Est-ce que vous pouvez nommer les différentes difficultés auxquelles vous faites face dans votre secteur ?
c'est vraiment l'attribution, mais vraiment au compte-gouttes, et encore, on a largement le temps de compter les gouttes, et les doigts d'une seule main, il suffirait pour obtenir des autorisations de séjour. C'est vraiment très, très compliqué. Et notamment aussi, je voudrais revenir sur ce thème-là, sur les mineurs non accompagnés. Dans l'Ain, ils doivent être trois dizaines à peu près de jeunes qu'on connaît. Donc ces mineurs non accompagnés, on manque de dispositifs, c'est clair, pour les accompagner au mieux et les aider à avancer dans leur démarche. Et c'est ce qu'on espère pour la suite, c'est quand même qu'il y ait des ouvertures qui se fassent avec le futur pouvoir politique qui va s'instaurer à partir du mois de mai.
Et au sujet des mineurs non accompagnés, Jean Favier le rappelle, tant qu'ils sont mineurs, il y a l'obligation de les prendre en charge.
Donc c'est l'aide sociale à l'enfance qui les prend en charge. Ils sont donc protégés et ils peuvent entamer ou poursuivre une scolarité ou entamer un apprentissage. Et on a vu souvent des patrons venir nous voir avec l'employé qu'ils ont eu, qui arrive à 18 ans, qui se retrouve majeur, donc l'aide sociale à l'enfance s'arrête. Et là, ils se retrouvent confrontés à la demande de titre de séjour en préfecture. Et très souvent, même la plupart du temps, on l'a constaté ces dernières années, ces jeunes arrivés à 18 ans se voient notifier une obligation de quitter le territoire français, alors qu'ils ont investi au minimum 6 mois auprès d'un employeur, auprès de qui ils ont un employeur qui leur fait confiance, qui a envie de les garder, qui vient nous trouver, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, qu'est-ce que je peux faire auprès de Madame la préfète pour pouvoir poursuivre avec ce garçon, parce qu'il me va très bien, il est très compétent, il a toutes les qualités pour que je le garde. Et surtout dans des métiers où, soyons clairs, les jeunes Français ne veulent pas aller. Les métiers de la restauration, les métiers du bâtiment. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'on vit encore maintenant et sur laquelle donc on espère quand même qu'il y aura une prise de conscience.
Et dans l'Ain, ces jeunes ont monté un collectif pour montrer qu'ils ne sont pas là pour profiter de la société française, mais pour s'investir, travailler et servir au mieux ce pays dans lequel ils sont arrivés. Et ils sont aussi nos invités dans quelques minutes. On retrouve Jean Favier, bénévole à la CIMAD 01, pour avoir le regard de l'association sur ces 5 dernières années.
Très négatif, parce qu'on est en train de créer toute une population, et ça représente pour l'ensemble de la France, ça représente quand même de l'ordre de 300 à 400 000 personnes qui sont sous les radars, comme on dit, et qui vivent en clandestin, tout en participant à l'économie française, parce que ça aussi, ça ne peut pas être comptabilisé, mais le volume de travail qu'ils produisent, ils participent quand même à la richesse française, soyons clairs aussi. Même s'ils sont en clandestin, ils restent. Je pense que c'est une des problématiques que l'on ne veut pas voir en France, c'est qu'on a une politique qui est très restrictive dans l'octroi des titres de séjour, dans la régularisation des gens, notamment le fait qu'on ne les autorise pas à travailler, tant qu'ils sont clandestins, ils n'ont pas le droit de travailler, ce qui n'empêche pas qu'il y a, c'est une réalité qui est masquée, mais beaucoup travaillent au black, comme on dit, au noir, avec des patrons qui en profitent.
Qu'est-ce que vous attendez donc de la future présidence ?
De la future présidence, je ne dis pas qu'il faut ouvrir tout et puis régulariser tout le monde. Je dis qu'il faut traiter les sujets en fonction des personnes. Il faut aussi humaniser cette approche de cette réalité qui nous arrive. Là aussi, on a toutes les projections possibles. Oui, il nous faut des gens formés, des gens qui ont des diplômes et tout ça, mais raisonnant un tout petit peu, les gens qui ont des diplômes, ils en ont les pays d'où ils viennent, ils en ont besoin aussi. Alors on ne va pas leur piquer leur richesse aussi à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a ces arrivées de gens qui ont des parcours, mais on n'ose pas. Enfin, ça défie l'imagination, ceux qui sont passés par la Libye, le peu qu'ils nous en racontent, après, et ensuite avec la traversée de la Méditerranée sur des bateaux de fortune, je ne vous dis pas ce qu'ils ont vécu et leur motivation pour venir en France et s'y installer, quoi. On ne peut pas l'imaginer dans notre confort de France, 5e ou 6e pays le plus riche du monde, quoi. Et ça aussi, ça explique le pourquoi les gens se mettent en route, parce qu'ils espèrent une vie meilleure, tout simplement. Et le jour où on saura suffisamment investir pour que leur vie soit meilleure dans leur pays d'origine, il n'y aura plus d'incitation à partir.
Jean Favier, bénévole à la CIMAD 01, et donc on retrouve le collectif Jeunes Migrants de l'Ain.
Je m'appelle Barma Diaya, je suis membre fondateur du collectif Jeunes Migrants.
Je m'appelle Aïdara Zakaria, j'ai rejoint Yaya et Mounia au collectif.
Alors Yaya, membre, l'un des membres fondateurs de ce collectif Jeunes Migrants de l'Ain, pourquoi ce collectif a vu le jour ?
Ce collectif a vu le jour vers la fin de 2019 pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous avons constaté que beaucoup de droits des jeunes mineurs isolés qui arrivent dans le département étaient bafoués, notamment par des structures qui accompagnaient les jeunes mineurs. Et comme si vous êtes mineur, vous ne connaissez pas tous vos droits pour réclamer. Donc nous avons jugé nécessaire de réunir nos idées afin que nous puissions attirer l'attention des personnes qui financent ces institutions sur le manque, sur les manques d'informations, notamment les droits que les jeunes ont dans les institutions.
Alors, Yaya Zakaria, est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots sur votre parcours, Yaya ?
Je suis venu de la Guinée-Conakry et c'était en 2017, exactement au moment des élections, entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Donc quand je suis arrivé, ils m'ont fait des évaluations, ils m'ont confirmé mineur et ils m'ont transféré dans le département de l'Ain. Et quand je suis arrivé dans le département de l'Ain, on était accueillis et laissés à l'hôtel. Pendant 2 mois, on était à l'hôtel où nous n'avions pas de suivi. Et cela a beaucoup joué dans ma carrière, moi, parce que j'ai perdu 2 mois sans accompagnement.
2 mois perdus pour trouver un contrat d'apprentissage et le faire signer avant sa majorité. Yaya, 18 ans, reçoit alors une OQTF, obligation à quitter le territoire français. Pourtant, il a trouvé un contrat d'apprentissage pour apprendre le métier de boulanger à la chapelle du Châtelard. Une place lui est réservée au centre de formation des apprentis à Ambérieu-en-Bugey. Sa patronne boulangère se met alors en grève de la faim pour que Yaya obtienne un titre de séjour. Ça sera chose faite début 2021. Zakaria, votre parcours alors, vous venez de quel pays ? Vous êtes arrivé en France en quelle année ?
Je suis malien. Je suis venu en France à peu près la même année que Yaya, en 2017 et tout. Du coup, quand moi je suis venu, j'avais 15 ans. Et c'est à peu près les mêmes poursuites. Hein. On nous a amenés à l'hôtel.
Et Zakaria, vous parliez français en arrivant en France ?
Je parlais un petit peu français, parce que déjà au Mali, on parlait un petit peu français. Donc du coup, je me débrouillais pas mal, mais c'était très très compliqué pour moi.
Parce que quand vous arrivez, on vous demande 3 choses. Il faut s'intégrer, il faut trouver un contrat d'apprentissage avant votre majorité, et surtout, il ne faut pas avoir de problème avec la justice française. Il ne faut pas faire de problème. C'est ça ce que nous essayons d'éviter et faire, nous, en tant que jeunes immigrés.
Vous l'avez dit, tous les deux, vous êtes arrivés... c'était le début du nouveau quinquennat. Donc, est-ce qu'il y a eu des changements positifs, négatifs pour les migrants depuis l'élection d'Emmanuel Macron ?
Je peux dire en 2017 jusqu'à 2021, dans le département de l'Ain, c'était compliqué. Jusqu'à présent, je connais des jeunes, ils ont tout fait pour avoir leurs papiers, ils ont tout fait pour avoir des apprentissages. Jusqu'à présent, leurs dossiers ne sont pas étudiés comme il faut. On leur a donné des OQTF.
Donc OQTF, obligation à quitter le territoire français.
Donc du coup, on leur a donné des OQTF qui n'avaient pas du tout de sens. Et après, on te demande de travailler pour pouvoir faire une autre demande. Alors qu'en France, on demande quoi pour travailler, pour avoir un papier, pour travailler. C'est compliqué. Du coup, le jeune, il va faire quoi ? Il n'y a aucun patron qui peut prendre un jeune qui n'a pas des papiers. C'est compliqué même en apprentissage.
Vous savez, pour faire une comparaison, il faut des éléments. Et nous, on n'a vécu que l'ère Macron. On ne savait pas ce qui s'est passé avant. Et là, on peut dire que oui, il y a eu beaucoup de choses positives, même si on a remarqué des choses négatives. Mais c'est toujours comme ça. On ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. En tout cas, les Françaises, on a remarqué qu'elles sont très accueillantes. L'humanité est là, même si certains sont hésitantes et ils ont peur de tout ce qui s'est passé. Mais on a remarqué qu'ils sont très accueillantes. Et beaucoup de personnes agissent à leur propre nom, c'est-à-dire ils ne sont même pas des institutions, mais ils nous côtoient.
Il y a beaucoup de personnes aussi, on informe la plupart des Français que les jeunes qui viennent ici, c'est des situations, c'est des problèmes économiques. Alors que Il y a beaucoup. Je peux dire, il y a même 50% de ces jeunes qui viennent genre, dans les pays européens. Ce n'est pas du tout des problèmes économiques. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a des réchauffements climatiques, il y a la guerre, il y a plusieurs choses. Il faut connaître déjà pourquoi telle personne il a quitté chez lui. Tout le monde veut rester chez lui. Si tu vois quelqu'un décide de partir de chez lui, parce que ça ne va pas. Donc du coup, il faut déjà connaître la raison du départ. Pourquoi telle personne a quitté sa famille, son père, sa mère, ses amis. C'est compliqué. Donc du coup, c'est pas par plaisir des fois.
Alors, premier tour de l'élection présidentielle hier, donc ce dimanche 10 avril. Au second tour, ce sera Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Quel est votre sentiment, Zakaria? Vous dites malheureusement. Pourquoi? Oui.
Bah, parce que personnellement, moi je voulais pas que voilà. Donc, mais bon, chacun a le droit de voter et c'est le travail d'un bon citoyen. Voilà, chacun a le droit de choisir qui veut. Et voilà. Mais bon, on va regarder comment ça va se passer dans le deuxième tour.
Pour terminer, pour les immigrés, vous aimeriez qu'il y ait quoi comme mesure pour la prochaine présidence?
Nous, ce que nous attendons du futur président ou présidente, c'est que ça soit, en tout cas, des études plus cas par cas, c'est-à-dire pas globaliser les choses. Pas dire que ouais, on a étudié 5 ou 6 dossiers, c'est toujours les mêmes écritures, la même chose, les mêmes histoires. Donc les 2 autres ou 3, on les met la même chose. C'est d'accepter de prendre le temps d'étudier les dossiers de cas par cas. Et j'aimerais appeler les uns et les autres d'accepter vraiment de dialoguer avec les immigrés avant de penser, de dire ou de croire à quoi que ce soit. Que les choses disent, bah, regardez un immigré qui passe, il est bien habillé, il fait ça, il fait ça, nous, nos enfants, ils sont là. Mais est-ce que vous savez ce que cet immigré a vécu pour avoir ça, le travail qu'il a fait? Je vous avoue, il y a des patrons, quand ils savent que voilà, vous êtes en situation un peu compliquée, ils vous font travailler le double d'heure que vous faites, parce qu'ils savent que après, si vous quittez ce contrat et vous n'avez pas la réponse de la préfecture, vous ne pouvez pas signer ailleurs. Ils ne connaissent pas la réalité. S'ils acceptaient de parler avec les immigrés, ils seront mieux.
Yaya, cofondateur du collectif Jeunes Migrants de l'Ain, et Zakaria, l'un de ses membres. Le collectif lance un appel à toute personne qui souhaite les aider. Beaucoup de jeunes n'ont pas de logement ni à manger et se retrouvent dehors. Pour les contacter, vous trouverez toutes les informations sur leur page Facebook, collectif Jeunes Migrants de l'Ain. Inès, vous faites maintenant le résumé des propositions du candidat et de la candidate qui sont donc au second tour pour les jeunes migrants.
Alors, il reste donc Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et les deux ont des programmes très défavorables pour les migrants. Marine Le Pen veut mettre fin au regroupement familial, c'est-à-dire qu'un étranger obtenant un titre de séjour en France ne pourra plus être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs. Elle veut aussi supprimer le droit du sol, c'est-à-dire le principe sur lequel un enfant né en France obtient la nationalité française à sa majorité. La candidate du Rassemblement national veut que les demandes de droit d'asile puissent avoir lieu à l'étranger. Elle veut supprimer l'autorisation de séjour pour les étrangers n'ayant pas travaillé dans les 12 mois qui suivent leur arrivée. Elle revendique aussi l'expulsion systématique des délinquants et des criminels étrangers. Emmanuel Macron veut aussi expulser les ressortissants de pays étrangers qui troublent l'ordre public. Il veut revoir les conditions d'accès pour les titres de séjour de plus de 4 ans. Leur obtention dépendrait de la réussite à un examen de français et d'une démarche d'insertion professionnelle. Le candidat de La République En Marche veut aussi que le refus d'asile entraîne l'obligation de quitter le territoire français.
Et au sujet des mineurs étrangers non accompagnés?
Alors, le débat se cristallise toujours autour de la question des tests osseux. Ils permettent aujourd'hui de déterminer l'âge d'un migrant sans papier. C'est une radio du poignet gauche qui doit prouver l'âge du jeune. Sauf que ce test est jugé peu fiable. Pour cette raison, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Yannick Jadot veulent l'interdire. Marine Le Pen, candidate donc au second tour de l'élection, veut maintenir les tests osseux. Et si le test montre que la personne a plus de 18 ans, elle doit rentrer dans son pays d'origine. Et Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé sur ce sujet.
Merci Inès. Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
La semaine dernière, c'était la finale départementale des petits champions de la lecture à la médiathèque Césaire de Bourg-en-Bresse.
11 enfants venus des quatre coins du département ont choisi le passage d'un bouquin à lire devant un jury attentif. Et je faisais partie des membres du jury, accompagnée par Déborah, chargée de clientèle à la librairie Montbarbon, et Séverine, documentaliste au lycée Lalande. Les enfants avaient 3 minutes chacun pour nous convaincre.
Bonjour à tous et bienvenue à cette finale départementale des petits champions de la lecture. Vous venez un peu de partout dans le département et on est vraiment ravis de vous accueillir à la médiathèque Césaire aujourd'hui et on vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Je remercie grandement les membres du jury qui ont accepté de participer aujourd'hui. Donc, nous avons 3 membres du jury. Sandrine Signé qui est documentaliste au lycée Lalande.
Bonjour.
Déborah Loca, qui est chargée de communication et de clientèle à la librairie Montbarbon, à Bourg-en-Bresse.
Bonjour à tous.
Et Ignacy Lombardet, journaliste à Radio B.
Bonjour.
Le vainqueur de cette finale départementale aujourd'hui sera sélectionné pour aller participer à la finale régionale qui aura lieu le 4 mai, le mercredi 4 mai après-midi à Clermont-Ferrand.
Je m'appelle Marine Marquer et je suis chargée d'action culturelle pour le réseau de lecture publique de Bourg-en-Bresse. Alors cet après-midi, on accueille une finale départementale des petits champions de la lecture. Je dis une finale parce qu'en fait, il y a 3 finales sur le département de l'Ain. Une à Ferney-Voltaire, une qui a déjà eu lieu à la MJC Popcorn à Bourg-en-Bresse et la dernière aujourd'hui chez nous. On a 11 enfants participants de CM2 qui ont été sélectionnés dans leur classe. Ils vont passer un par un devant un jury composé de 3 personnes pour lire un extrait qui durera maximum 3 minutes et ils vont être évalués sur leur capacité à articuler et à dire leur texte correctement mais sans trop en faire non plus.
Donc comment s'est passée la première sélection ?
Ils ont travaillé en classe la lecture de leur texte. Pour la plupart, ils ont dû ensuite lire devant leur classe et devant un jury qui aura été sélectionné par l'enseignant. Et ce premier jury a donc déterminé un gagnant par classe.
Bonjour, je suis Sandrine Signé, professeure documentaliste au lycée Lalande et ravie de participer à ce jury aujourd'hui.
Bonjour, Déborah, chargée de clientèle à la librairie Montbarbon.
Donc vous pensez quoi, vous, de l'organisation de ce concours ?
C'est une belle opportunité pour les enfants de pouvoir s'exprimer. Et contrairement à moi qui n'ai pas fait de concours de petits lecteurs, ça m'aurait beaucoup aidé pour parler en public. Devant un micro.
Et moi, je pense que c'est une excellente idée de commencer très jeune la lecture à voix haute, parce qu'on va leur demander ensuite tout au long de leurs études, jusqu'au grand oral du bac et après, et que donc c'est un exercice auquel il faut se plier rapidement, donc c'est très bien.
Les 3 jurés vont devoir donc écouter attentivement chaque enfant. Quels sont les critères de sélection ?
Il y a 3 critères d'évaluation principaux, ça va être la technique, la posture et la transmission. Donc la technique, ça va être vraiment sur la technique vocale, l'articulation, la vitesse de la lecture, est-ce qu'il parle pas trop vite, pas trop fort, pas trop doucement. La posture, ça va être aussi leur façon d'être, est-ce qu'ils se tiennent correctement, est-ce qu'ils sont tout avachis ou cachés derrière leur livre, mais en même temps ne pas théâtraliser et faire trop de gestes. Et la transmission, c'est qu'est-ce qu'ils arrivent à transmettre via leur lecture ? Est-ce qu'ils peuvent faire passer les sentiments du texte, des émotions et tout ça ?
Vous me faites signe quand vous êtes prêts et je déclenche le chronomètre. Puisque vous le savez sûrement, vous avez le droit de lire pendant 3 minutes. Vous avez dû vous entraîner, je pense. Je pense que vous le savez parfaitement. Donc, vous me faites signe quand vous êtes prêts, on démarre le chrono et vous démarrez votre lecture.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Journal d'un babysitter.
Tu es prêt ?
Oui. Il fallait que je le raconte à quelqu'un. C'est pour cela que je commence ce journal. Je ne sais pas si je le continuerai, mais ce soir, il fallait absolument que je parle à quelqu'un. Et comme parler, c'est pas mon truc, alors j'ai décidé d'écrire. Hier soir, il m'est arrivé un truc incroyable, extraordinaire, fabuleux, fantastique, mérifique, tellurique, de la bombe. Le genre de truc qui ne t'arrive qu'une fois dans la vie. Hier soir, moi, Prosper, j'ai fait mon premier babysitting. C'est tout ? Je sais, journal, je sais. Si tu pouvais parler, c'est sans doute ce que tu dirais. Si je pouvais parler, mais je parle et j'insiste, c'est tout. Babysitter et en faire un foin pareil. Tu vas garder un mot en soirée en te mettant devant la télévision et me faire croire que je suis écrit par l'homme du siècle. La vraie question serait plutôt, as-tu pris ta température ?
Je m'appelle Myriam et aujourd'hui je vais vous lire Le cri de la mouette de Emmanuel Labori. C'est une autobiographie de l'écrivaine qui raconte son enfance.
À 9 mois, je t'ai emmené voir un spécialiste qui a dit immédiatement que tu étais née sourde profonde. Le choc a été rude. Je ne pouvais pas l'admettre. Ton père non plus. Nous nous disions, c'est une erreur de diagnostic, c'est impossible. Nous sommes allés voir un autre spécialiste. Et j'espérais tant qu'il allait sourire et nous renvoyer à la maison en nous rassurant. On s'est retrouvés avec ton père à l'hôpital Trousseau. Tu étais sur mes genoux et là, j'ai compris. À la séance de test, on te faisait entendre des sons très forts qui me déchirent les tympans et te laissaient de marbre. J'ai posé des questions au spécialiste. 3 questions. Parlera-t-elle ? Oui, mais ce sera long. Que faire ? Un appareillage, une rééducation orthophonique précoce. Surtout pas de langage gestuel. Puis je rencontrais des adultes sourds. Ce ne serait pas une bonne chose. Ils appartiennent à une génération qui n'a pas connu de rééducation précoce. Vous seriez démoralisés et déçus.
Elle est d'un niveau
vraiment 5 étoiles.
Beaucoup. Moi, j'ai mis moins, je crois.
C'est la maturité.
Elle est incroyable. Moi, j'ai entraîné des élèves de lycée cette année, beaucoup sur les lectures à voix haute.
Laquelle vous avez le fait ?
Myriam, maintenant. Elle est extraordinaire.
Je tiens à féliciter à nouveau tous les participants. On a dit tout à l'heure que je suis professeure documentaliste au lycée Lalande à Bourg-en-Bresse. Et j'ai participé cette année à plusieurs événements autour de la lecture à voix haute. J'ai fait participer les élèves du lycée aux nuits de la lecture, à des lectures offertes en maison de retraite. Et les prestations qu'ont fait les enfants cet après-midi étaient vraiment de grande qualité. Et je leur dis un grand bravo parce qu'ils s'en sont tous très bien sortis. Je suis admirative et ils peuvent être fiers d'eux tous. Alors il fallait choisir quelqu'un, forcément. Et la personne que nous avons choisie toutes les quatre, à l'unanimité, sans aucune hésitation malgré tout, c'est Myriam. Tu as une très grande maturité, tu lis extrêmement bien et tu fais passer énormément d'émotions dans un texte qui est un texte difficile. Tu nous as bluffé, franchement, et tu peux être fière de toi. Bravo.
Je pensais pas non plus que j'allais gagner vu que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont aussi bien lu.
T'es fière ?
Oui, je suis beaucoup fière de moi.
Toi, qu'est-ce que t'aimes dans la lecture ?
Moi, ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre en lisant. Moi, j'aime beaucoup faire du théâtre et j'aimerais même en faire. Et voilà, j'aime beaucoup lire. Ben, en ce moment, je lis ce livre, Le cri de la mouette.
Et comment tu l'as découvert, ce livre ?
Bah, ma sœur qui est en seconde, elle l'avait lu et du coup, elle m'en avait parlé. Et ça m'a inspirée. Du coup, je me suis dit que je voulais bien lire le livre.
Je suis fière de Myriam et voilà, elle m'impressionne toujours et je suis contente.
On sait quoi en général de cet événement pour faire lire les enfants ?
C'est très bien, je trouve que pour inciter les enfants à lire, surtout en ce moment avec les écrans, voilà, je trouve que c'est très bien et il faut les inciter justement à lire, les encourager et pour qu'ils oublient un peu tous ces téléphones, les écrans et tous les jeux.
Comment tu t'appelles ?
Louise.
Donc Louise, comment ça s'est passé cet après-midi ?
Bien. J'ai bien aimé parce que je trouvais ça... c'était une bonne expérience à faire, même si je n'ai pas gagné. J'ai déjà représenté mon école, donc je trouve ça déjà bien.
Toi, t'aimes beaucoup lire ? Comment ça se passe ?
Oui, je lis beaucoup parce que j'aime bien lire.
Un petit mot de la maman ?
Moi, je trouve ça super parce que du coup, justement, c'est valorisant pour eux et ça les motive. Moi, je suis enseignante au collège, donc quand je vois ça, je me dis, quoi qu'il se passe, c'est toujours un plus pour eux pour plus tard. Quoi, de prendre la parole en public, etc. Donc je trouve ça très très bien que la lecture à voix haute soit mise en avant dans les écoles primaires.
Kaina.
Donc Kaina, qu'est-ce que ça t'a fait de participer cet après-midi ?
Ben, moi j'ai été très contente de participer ici et bravo à Myriam.
Donc le papa ?
C'est super, d'autant plus qu'à mon époque, il n'y avait pas la chance de pouvoir s'exprimer comme ça. Une très bonne idée. pour la prise de parole en public, pour la confiance en soi, parce que moi, je m'aperçois au niveau de ma fille qu'elle vient de loin, elle est très timide, très réservée. Et puis le fait de pouvoir s'exprimer comme ça, c'est que du bonus. Puis associé à des petits cours de théâtre qu'elle fait. Et donc voilà, c'est tout bénef, c'est super.
Les enfants avaient tous un très bon niveau, mais Myriam a fait l'unanimité. Un grand bravo à cette élève de l'école primaire Béluison à Trévoux. Et elle est sélectionnée pour la finale régionale qui aura lieu début mai à Clermont-Ferrand.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Et lundi prochain, c'est le lundi de Pâques. À vous les Burgiens, prend une pause. Alors bonnes vacances de printemps pour les plus chanceux et on se retrouve le 25 avril.
Et au lendemain du second tour de la présidentielle 2022, nous ferons le point sur la participation à cette élection avec Xavier Breton, député de l'Ain, co-auteur d'un rapport sur l'abstention et un politologue de l'université Lyon 2.
Et en attendant, nos émissions sur les présidentielles sont à retrouver sur le site www.radio-b.fr, rubrique Info et À vous les Burgiens, ou encore sur la plateforme Podcast Addict en tapant À vous les Burgiens. Belle semaine sur nos ondes.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici. Dans le monde carcéral, il y a une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.